Gustave Droz, un coup de canif. Personne n'ignore que Robert adorait sa femme. Il avait épousé par amour, vous le savez comme moi, et s'était jeté avec un tel enthousiasme dans sa nouvelle vie que du jour au lendemain, toutes ses relations furent brisées comme verre. Il s'enferma dans son sanctuaire, mit la clé en dedans, et dégusta son bonheur goutte à goutte. Lorsqu'on le rencontrait, il vous disait un mot à peine. Il avait coupé ses favoris, ne portait plus que les moustaches et ne quittait pas ses cravates bleues. Il semblait avoir peur de ce procès, tant il prenait de soin à éviter ce qui pouvait le lui rappeler le souvenir. Il paraissait préoccupé. Vous regardez à deux fois avant de vous reconnaître, et vous répondez comme le fait un homme durant l'entracte lorsqu'il est pressé de regagner sa stalle. Raoul n'était pas le premier chez lequel je remarquais ses façons d'être. Presque tous les jeunes mariés se ressemblent. Ils acquièrent tout à coup une circonspection, une dignité particulière aux gens qui ont gagné un gros lot, aux francs-maçons nouvellement initiés et aux conspirateurs qui viennent de prêter serment. Ils ne lisent plus les mêmes journaux, changent de tailleur et démoliraient Paris tout entier, n'était la dépense pour anéantir sous les décombres toutes les nanas et ninis qui parfois encore leur sourient en passant. Raoul fut ainsi pendant 8 mois environ. Vers le milieu du 9e, il eut un relâchement dans ses habitudes. On le rencontra plus souvent. Ses favoris recommencèrent à repousser. Et ses cravates bleues se montrèrent moins fréquemment. Il avait repris l'usage du cigare, marchait plus lentement et flânait volontiers. Oh, ce n'est pas qu'il fût moins heureux dans son intérieur, ou qu'il aimait moins sa femme, jolie petite femme. Car je me souviens qu'à cette époque même, je le rencontrais à une pièce fort en vogue, où il était venu seul, et puis on demandait des nouvelles de sa femme, il me répondit en confiance et avec un grand accent de franchise. « Mon cher, c'est un trésor !» Quand un mari dit cela aussi nettement, il y a lieu de croire, n'est-il pas vrai, qu'il est fort amoureux? Eh bien non. Je crois, en y réfléchissant, qu'il y a de croire à une certaine diminution d'amour de sa part. Lorsque j'entends l'un d'eux me dire de sa femme « C'est un trésor, mon cher, il faut la connaître !» etc., etc. Je crois voir un homme qui souffre sur un son, sur un tison qui s'éteint. Que le fer flambe, on se chauffe et on ne dit rien. Or, pour vous dire toute la vérité, Raoul commençait à souffler son feu. Les douceurs même qu'il avait enivrées il y a 9 mois lui paraissaient maintenant un peu fades. Il trouvait autour de lui la température tiède, accablante. Et lorsque sa femme venait tout doucement par derrière et l'embrassait au front, il commençait à s'apercevoir, ce qui ne lui était jamais arrivé, que cela le décoiffait. Et il en était irrité. Il ne disait rien, se mettait point en colère, mais il était gassé, d'autant plus que la charmante petite femme ne manquait pas, après son baiser, de lui fermer les yeux avec ses deux mains et de rire comme une folle. « Voyons, Louise, disait-il, je suis en train de lire. Alors il faut dire, ma petite femme, je t'adore ou sans cela, je ne te lâche pas. « Mais je t'ai dit cela 500 et tant de fois !» Et il enrageait au fond et disait rapidement Ma petite femme, oui, je l'adore, là, je t'adore. Allez, embrasse-moi. C'est ça, c'est fini. Tu es un ange. Allez, ôte tes mains. Du tout. C'est de la contrebande, cela. Il faut dire ma petite femme bien gentiment. Ma petite femme, répétait Raoul en tapant sur la table. Je t'adore. Là, me fais pas prier. Là, tu ne me diras pas que tu me suis fait prier. Tu m'aimes donc toujours? Parbleu. Mais je ne peux pas te signer tous les quarts d'heure. Sois juste. Il ramassait son livre qui était tombé par terre en refermant, et de sorte qu'il recherchait pendant 5 minutes la page commencée. Cela le mettait de mauvaise humeur, et un quart d'heure après, en se mettant à table, tout naturellement, il trouvait le potage trop salé. Tiens, je ne le trouve pas, moi, disait Louise. Et moi, je le trouve, répudia Raoul, en versant de l'eau dans son bouchon. Il faut dire que la chère petite, qui croyait voir un parti pris chez son mari, protestait en mettant du sel, de sorte que Raoul haussait les épaules et s'écriait au bout d'un instant de silence. Ma chère, votre cuisinière ne sait pas cuire la viande. Celle-ci n'est pas mangeable. Il n'y a qu'au restaurant qu'on trouve un filet présentable. Et il poussait une espèce de soupir qui ressemblait à s'y méprendre un regret continu. Mais il n'y a qu'un mois que vous vous plaignez ainsi, mon ami. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. D'abord, je ne me plains pas, remarquez bien. À vous entendre, on croirait que je suis content de rien. Ah non, je ne dis pas cela. Vous le laissez supposer, du moins. Il se faisait un silence, mais durant ce temps, Raoul pensait que tout à l'heure, après le dîner, il irait s'installer dans le salon, n'ayant ce soir-là ni spectacle ni bal, qu'il ouvrirait son journal et que tout en lisant, il verrait le mouvement régulier de l'aiguille de sa femme et l'éternelle tapisserie à dessous noir et noir sur fond blanc, et qu'après le journal, il reprendrait son livre, et qu'après avoir bâillé 3 fois, il regarderait la pendule, que sa femme aurait l'air chagrin en le voyant bâiller, et lui dirait, pour l'empêcher de dormir, « Oh, j'ai bien envie de faire ce petit coin-là bleu au lieu de le faire noir. Qu'est-ce que t'en penses, jeune petit homme? » Petit homme. Une expression qui l'avait fait pleurer de tendresse et qui sentait abusive à présent. Toutes ses pensées venaient d'une à une, et à mesure qu'elles arrivaient, il se sentait sa mauvaise humeur croître, de sorte qu'il reprenait tout à coup avec aigreur. Tu vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire, exiger un filet bien cuit. Eh bien, j'ai tort, je veillerai à cela, disait Louise avec un air un peu pincé. Mais vous ai-je dit que vous aviez tort? Alors j'ai tort. Vous avez une singulière manie, ma chère enfant, celle de vous poser en victime continuellement. Au fond, il se sentait absurde. Mais cela était plus fort que lui, et la colère lui montait au cerveau, comme la sueur monte au front dans un endroit trop chaud. Voyons, Raoul, calmez-vous. Il n'y a pas grand mal dans tout cela. Me calmer, mais suis-je donc en colère? Oh, mais vous êtes impossible, ma chère. Eh bien oui, je suis impossible, je vous l'accorde. Ce qu'il y a de joli, c'est que vous me l'accordez. Mais vous n'en êtes point convaincu. Au fond, vous vous trouvez parfaite, votre respectable. Tante, vous le répétez assez souvent. Je m'étonne qu'elle ne soit pas venue ce soir vous demander à dîner. Qu'est-ce que vous avez après ce filet? Je ne sais vraiment pas. Le dîner s'achevait dans le plus profond silence. Puis, aussitôt après, Raoul reprenait son chapeau. Vous sortez? Oui, si vous voulez bien le permettre. Et il s'en allait d'un pas assuré. Dans l'escalier, il se disait: Elle ne m'a pas demandé si je rentrerai tard. C'est extraordinaire. Oh, j'étais très faible dans les premiers mois. Une fois dans la rue, il s'arrêtait sur le trottoir, ne sachant où aller. Il respirait à plein poumon, comme un homme qui sort de l'eau, et marchait au hasard, en boutonnant ses gants. Oh, j'ai besoin d'air, disait-il. Ouf, ouf, ouf. C'est une excellente petite femme, oui, mais j'ai été trop faible. Il entra chez un marchand de tabac pour allumer son cigare. Sur les boulevards, il voyait les cafés ouverts, une foule étalée sur des chaises, et réfléchissait que pour flâner à son aise dans Paris, il faut être seul. Il passait devant son ancien cercle, tout étincelant de lumière, et il n'osait point encore y monter, quoiqu'il en eût grande envie. Il craignait certains sourires et passait de l'autre côté de la rue. Il se rappelait que lorsqu'il donnait le bras à sa femme, la jupe lui frottait la jambe d'une façon agaçante. Quand, en passant devant les bijoutiers et les modistes, madame s'arrêtait invariablement, ce qui le rendait furieux, et que lui, de son côté, en face des armuriers et des libraires, il disait: Bon, si j'étais seul, j'entrerais voir ça de près. Il se rappelait qu'hier encore, en revenant du bois, la conversation s'en allait mourante au roulement de la voiture, puisqu'il n'était tu, et ne sachant plus que dire, et ayant senti que ses paupières se fermaient, il était effrayé de se trouver déjà si vieux et si triste. Lui qui riait si fort il y a 2 ans à peine. Enfin, au bout de 2 heures, il avait un remords et instinctivement rentrait chez lui, où il trouvait sa femme avec les yeux rouges. Oh, elle a pleuré, se disait-il. Mais si je peux pas sortir un instant sans retrouver des larmes, en vérité, c'est à déserter. Et au lieu de l'embrasser comme il en avait envie en montant l'escalier, il disait d'un petit air glacial: Bonsoir, ma chère. Et rentrait chez lui. Louise, de son côté, sentait que son mari s'ennuyait auprès d'elle. Elle devinait que tout en elle, jusqu'au frôlement de sa robe, agaçait Raoul. Elle faisait 1000 efforts pour rétablir la gaieté, les causeries intimes, les bons petits éclats de rire au coin du feu. Mais l'effort même qu'elle s'imposait la rendait glaciale et gauche. Elle embrassait à contre-temps, entamait une conversation méditée d'avance, tandis que son mari lisait un livre intéressant. Et celui-ci répondait: Ah, oh, vraiment? Sans même lever les yeux. D'autre part, elle se sentait blessée dans son amour-propre. Et lorsqu'elle avait essayé devant son mari un chapeau sur le fait duquel elle comptait que Raoul lui avait dit « Il est pas mal ce chapeau, c'est moi j'aurais pas pris jaune au lieu de blanc. » La pauvre chère petite se sentait des envies de battre quelqu'un et se disait « Mais que faire, mon Dieu, que faire ?» Cet état de choses qu'on appelle, je crois, la lune rousse durait depuis un mois environ, lorsque Raoul, qui était encore à table, prit un billet plié menu et parfumé. « Vous permettez, n'est-ce pas ?» dit-il en se tournant vers sa femme. Et il déplia la lettre qui était ainsi conçue. « Qui sait, mon cher Raoul, s'il ne vous serait pas agréable de vous trouver dans ce petit restaurant du bois de Vincennes qui est au milieu de l'eau ? N'est-ce pas le numéro 3 dont les fenêtres donnent sur le lac ? J'ai idée que demain mardi, ce salon sera libre. Qu'en pensez-vous ? C'est à voir dans tous les cas. Vers 7 heures, le soleil s'abaisse derrière les arbres. C'est au frais dans ce chalet. Et le filet Chateaubriand, ils sont exquis. Amanda. Amanda, se dit Raoul. Mais où diable ai-je connu une Amanda ? Il resta un instant pensif. C'est une mauvaise nouvelle ? Dit Louise. Il se rappela alors que sa femme était là et répondit comme un homme interrompu par un indiscret. Non, c'est de mon tailleur. Seulement, comme il mettait précipitamment du sucre dans son café pour éviter de regarder sa femme en face, il crut voir du coin de l'œil qu'elle l'observait fixement. Et au lieu de chiffonner la lettre, il la mit soigneusement dans l'enveloppe et la glissa dans sa poche. Chose assez difficile à expliquer, il fut charmant ce soir-là. Cette lettre folle, cette Amanda, qui ne se rappelait pas le moins du monde, faisait naître en lui les plus riantes idées. Il était en quelque sorte flatté qu'on ne crût pas le mauvais sujet tout à fait mort en lui, et il éprouvait un véritable plaisir à être vertueux, se sentant sous la main un moyen de ne plus l'être. « Oh, je n'irai certes pas à ce rendez-vous, » se disait-il, « mais enfin, si j'étais un autre homme. » Il y en a peu qui résisteraient à un moment de folie. Ce n'est même pas un moment de folie, c'est un moment de gaieté qu'il faut dire. Après tout, pourquoi se laisser éteindre ? Oh, si je n'avais pas un ange pour femme, sans doute pas la pauvre mignonne. Il la regardait, penché sur sa tapisserie, et ne disant mot. Elle ne se doute de rien, si je voulais. Il se leva d'un air gaillard et marcha de long en large dans le salon, tout en fredonnant avec la satisfaction de quelqu'un qui est armé jusqu'aux dents et qui se dit « Si je ne tue personne, c'est uniquement parce que je suis bon. On ne se doute pas combien je suis bon. » Il se sentait en ce moment-là une véritable supériorité. « Comme tu travailles avec ardeur ce soir, ma chérie, c'est très gentil ce dessin-là. » Le filet noir fait bien au milieu du rouge. Oh, il fait très bien, ce filet noir. Il ajoutait à part lui. Ce qu'il y a de particulier, c'est que je ne me rappelle pas cet Amanda. C'est absurde, cette lettre. Et il chantonnait. Absurde, absurde. Il était heureux comme un roi. Le lendemain matin, la première pensée qui vint à l'esprit fut celle de ce dîner. Et tout en déjeunant, il ne put s'empêcher d'expliquer à Louise ce qu'est un vrai filet Chateaubriand bien cuit. En voulez-vous en manger un ce soir? J'en ferai un. Non, non, pas ce soir. Je parle de ça, mais j'en ai point envie. D'ailleurs, ce soir, ce n'est pas possible. Il y avait plaisir à mettre pied sur la pente du talus, persuadé qu'il ne glisserait pas. Que ferez-vous donc ce soir? Oh, je n'ai pas dit ça. Oui, j'ai rencontré Paul Y, l'excellent garçon, qui m'a invité à dîner pour ce soir. Son frère revient du Mexique. Je me suis excusé, mais il a mis une telle insistance que j'ai été vraiment touché. Excellent garçon, ce brave Paul. Ah, fit Louise. Oh, mais non, je n'irai pas, très probablement. Raoul se leva de table, embrassa sa femme et se dit à lui-même: il est bien clair que si j'étais pas le modèle des maris, rien ne serait plus facile que d'aller là-bas, d'autant plus qu'au fond, c'est fort innocent. Vers 5h30, il rentra chez lui. Bon, dit-il, j'ai peur de fâcher le brave Paul. Je vais aller dîner chez lui. Cela ne te chagrine pas, n'est-ce pas, ma petite Louise? D'ailleurs, j'ai pensé à une chose. Je vais te déposer chez ta tante. Tu dîneras avec elle et Jean ira te chercher à prendre. Moi, je vais à pied, cela me fera du bien. Je ne fais pas assez d'exercice. Est-ce convenu? Comme vous voudrez. Ne vous donnez pas la peine de me conduire chez ma tante. J'irai de mon côté. Une demi-heure après, Raoul, beau comme un astre, le sourire aux lèvres et la cravate bleue, montait dans un coupé de louage et se faisait conduire au bois de Vincennes. Il lui sembla qu'il était plus léger de 50 livres, et il monta l'escalier du chalet en se disant: après tout, elle ne le saura pas. C'est avec un certain plaisir qu'il retrouvait cette odeur de cuisine particulière au restaurant, ce bruit d'assiettes et de plats, qu'il vit les garçons affairés, escaladant les escaliers, la serviette sous le bras et les couverts dans la poche de la veste. « Monsieur est seul ?» dit l'un d'eux. « Oui, oui, mais j'attends quelqu'un. Le numéro 3 est libre, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. » Le garçon ouvrit une petite porte et Raoul entra tout joyeux. Il lui sembla que le garçon lui lançait un regard qui voulait dire « Mauvais sujet, va !» Et il fut ravi. « Monsieur ne commande rien d'avance ?»« Non, non, j'attendrai. » Il ôta son chapeau et inspecta la pièce. C'était l'éternel cabinet qu'il avait vu 500 fois. Papier rouge à ramage d'or, divan à 3 coussins et trop mou, pendule en bronze doré représentant une bergère sur une fontaine, et 2 pots de fleurs sans fleurs, un piano droit flétri et sans clé, attendaient le désert comme les ânes de Montmorency attendent leur cavalier. Un tapis où toutes les bottes de Paris ont le droit de laisser leurs traces, puis une petite table ronde sur laquelle le couvert était mis. Les fourchettes et les cuillères lourdes, épaisses, résistantes, étaient déformées et ternies. On sentait que des centaines d'inconnus s'en étaient déjà servis, et que des centaines d'autres s'en serviraient encore. Sur le bord des assiettes, trop solides, était inscrit en toutes lettres le nom du restaurant. Et tout cela rappela Raoul à un dégoût qu'il avait déploré jadis, mais dont il ne se souvenait plus. Il ouvrit les deux fenêtres pour renouveler l'air de la pièce qui sentait le réfermer. « J'avais oublié tout cela, se disait-il, et je suis bien y cesse d'être venu. C'est curieux. » Puis il fredonna pour chasser les idées confuses qui lui venaient à l'esprit. Il sentait que sa gaieté s'en allait. Il tira sa montre, il vit 7h15, et il avait faim. Au fait, si cette lettre était une plaisanterie, oh, j'y avais pas songé. Après tout, ce sera pour le mieux. On était fort gai dans le cabinet voisin, et au milieu du bruit des assiettes et des verres, il distinguait des éclats de rire. Je ne sais pas trop ce qui lui passa par la tête, mais il s'accouda sur la pluie de la fenêtre et regarda fixement le lac qui était tranquille comme une glace. Les arbres s'y reflétaient au loin, et une bonne odeur de bois, par intervalles, venait jusqu'à lui. « Ma pauvre petite femme !» murmura-t-il. Il allait sonner lorsqu'un bruit de jupe de soie se fit entendre dans le corridor. La porte s'ouvrit, une femme entra avec précipitation et, tout effarée, vint s'asseoir sur le divan. Elle avait un voile si épais qu'il était impossible de distinguer ses traits, mais on devinait dans tous ses gestes l'élégance et aussi la peur et l'embarras. Raoul resta stupéfait. Il fixait la nouvelle venue et cherchait à distinguer sous le voile. Enfin, il reconnut sans doute des traits qui lui étaient connus, un visage qui lui rappelait des souvenirs encore bien vivaces, car il l'était extrêmement. Il partit tout à coup, précipita dans ses bras que la jeune femme lui tendait. « Dis-moi que tu ne m'en veux pas !» s'écria Louise, car c'était elle. « Dis-moi, vite !» Elle releva son voile, ses yeux brillaient au milieu de grosses larmes. « C'est moi qui t'ai trompé !» dis-le tout bas, en s'emparant de la tête de mon mari. Puis éclatant de rire, malgré les pleurs, « Moi, je mourrais d'envie de manger un filet Chateaubriand, bien exécuté. »